Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi misenya, omanyi kobena.
It's okay, you know, it's okay.
A tisket, a tasket, a brown and yellow basket. I send a letter to my mummy. On the way I dropped it, I dropped it, I dropped it. Yes, on the way I dropped it. A little girlie picked it up and put it in her pocket. She was trucking on down the avenue, but not a single thing to do. She went peck, peck, pecking all around. When she spied it on the ground, she took it, my little yellow basket. And if she doesn't bring it back, I think that I will die.
Nous venons d'ouvrir cette nouvelle épopée des musiques noires avec un enregistrement de 1938 qui révéla une voix et une figure majeure de l'histoire du jazz au XXe siècle. Il s'agit de l'immense Ella Fitzgerald, disparue il y a déjà 25 ans et dont nous allons parler avec Steven Gézovanier qui est en duplex de Caen grâce aux moyens techniques de France Bleu Normandie. Merci d'être avec nous.
Merci à vous.
Vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé « Ella Fitzgerald, il était une voix en Amérique » paru aux éditions Le Mot et le Reste. Au-delà de la commémoration, pourquoi vous êtes-vous intéressé à cette personnalité de l'art vocal? Vous évoluez plutôt dans l'univers du rock habituellement.
Eh oui, c'est vrai, j'ai plutôt débuté dans l'univers rock. Et puis c'est le rock qui m'a amené à la première rockstar d'entre toutes, qui est Frank Sinatra.
C'est vrai.
Et de Frank Sinatra, eh bien évidemment, tout cet univers, toute cette époque m'a amené à Ella Fitzgerald, et puis que ma mère aussi écoutait. Donc c'est une musique dont je suis assez familier depuis longtemps.
Nous avons ouvert cette émission avec le classique A Ticket a Tasket, qui fut le premier grand succès d'Ella Fitzgerald à l'âge de 21 ans. Mais vous n'abordez cet enregistrement qu'à la page 93 de votre livre, car vous prenez le temps de compter dans le détail l'enfance malmenée de celle qui deviendra la First Lady of Song. Considérez-vous que les jeunes années d'Ella Fitzgerald ont été mal documentées par les biographes et méritaient un nouvel éclairage d'une centaine de pages ?
Oui, tout à fait. Alors, il y a des biographes américains hein, comme Stuart Nicholson qui ont beaucoup fouillé ces zones d'ombre parce qu'Ella était une personnalité très secrète, elle a très peu dit sur elle-même. Des révélations sont venues très tardives, par exemple sur ses passages dans la rue, dans une maison de correction ségrégée qui a été très violente et dont elle s'est échappée. Toutes ces zones d'ombre dans l'enfance, et je pense, sont nécessaires aussi pour comprendre l'artiste qu'elle est devenue, son besoin perpétuel d'être aimée, d'aimer le public et d'être lumineuse comme ça. Parce que quand même, elle a la caractéristique, Ella Fitzgerald, contrairement à beaucoup d'autres, c'est de cultiver la lumière et cultiver la joie. Et ce qui est quand même suffisamment rare pour être souligné.
J'ai en tout cas découvert qu'avant de devenir chanteuse, Ella Fitzgerald se destinait à la danse. Peut-on dire que cette discipline égayait un quotidien douloureux, voire miséreux? Est-ce que c'était son échappatoire?
Oui et non, ça débute. D'abord, la prime enfance est plutôt agréable. Donc elle naît dans le sud du pays, elle vient dans la banlieue de New York avec ses parents pendant la Grande Migration. Le couple travaille. Elle a perdu son père, mais son beau-père la traite plutôt bien au début. Et puis là, en fait, elle découvre, elle évolue dans un quartier, dans un contexte familial plutôt joyeux. Elle adore la musique, c'est l'arrivée de la radio. Et comme ça, elle découvre un univers musical. Sa mère a l'habitude de fredonner constamment à la maison et elle fait pareil. Et elle trouve d'ailleurs, à travers la musique, la radio, elle imite Louis Armstrong, elle imite les premiers artistes qui germent dans les Roaring Twenties, hein, ces années 20, ces années folles, comme on les a appelées en France, et qui sont des années joyeuses du début de l'entre-deux-guerres. Et donc la musique, d'abord, c'est une joie. Et elle est là, elle aime bien, elle file à Harlem et elle va apprendre les nouveaux pas de danse qui se pratiquent sur les parquets luisants des ballrooms de Harlem. Et elle adore ça, elle adore. Et la musique l'accompagne ensuite lorsque la mort de sa mère fait basculer dans des années un peu noires, des années très sombres de douleur. Et là, elle continue de danser, elle danse, elle vit dans la rue, elle danse pour se faire un petit peu de sous sur les trottoirs de Harlem, mais comme beaucoup d'autres, hein, puisque les années 20 ont basculé dans la crise de 29, la Grande Dépression balaye les États-Unis et la misère s'installe, notamment dans le quartier de Harlem, et la musique est une forme d'exutoire et surtout une perspective lumineuse.
Est-ce que la vitalité et la candeur d'Ella Fitzgerald masquaient un mal-être né de ses difficultés de jeunesse ?
Oui, très profond. Je crois qu'elle avait une mésestime d'elle-même hein, jusqu'au bout de sa vie. Elle constamment, très souvent, même après encore 40 années de carrière, elle doutait constamment. Elle était totalement dévorée par le trac et l'incertitude d'être à la hauteur de l'aura qu'elle pouvait avoir ou qu'on voyait en elle. À chaque fois, elle demandait à ses musiciens, Paul Smith, pianiste et autres, en témoigne, Tommy Flanagan aussi, elle était constamment à dire « mais est-ce qu'ils vont m'aimer ?» Et après les concerts, « oh ben j'ai été nul, est-ce que tu crois qu'ils ont aimé ?» Et tous ces musiciens autour d'elle disaient « mais là, comment tu peux en douter une seule seconde ?» Et à la fin de sa vie, donc assez difficile, hein, le diabète lui a rongé les jambes et la vue, elle est dans son jardin et elle discute avec son ancien road manager. Elle dit « mais je comprends pas, il y en avait tellement d'autres qui avaient de bien plus belles voix que moi. »
C'est fou, hein?
C'est assez dingue. Et puis elle dit « qu'est-ce qui a pu faire ce succès incroyable ?» Et elle marque un temps d'hésitation comme ça et puis elle dit « ah bah si, je sais bien sûr, c'est pas moi, c'est les chansons.
» Quoi qu'il en soit, c'est le batteur Chick Webb qui lui donnera sa chance en l'accueillant dans son grand orchestre. Mais là encore, le sort s'acharne sur Ella Fitzgerald puisque celui qui l'a mise au devant de la scène disparaît à l'âge de 30 ans, emporté par une tuberculose osseuse le 16 juin 1939. Chick Webb a-t-il été un mentor, un chaperon pour Ella Fitzgerald ?
Oui, alors des rumeurs ont même dit qu'il l'avait adoptée. C'est vrai qu'il avait un côté très paternaliste. Mais quand on regarde en fait derrière la légende, au début, il n'en voulait absolument pas.
C'est
donc
vrai.
Elle se met au chant en fait par un coup du sort et c'est presque son trac qui va l'amener au chant, puisqu'elle participe. Alors, la légende dit qu'elle tire au sort avec ses copines pour participer au concours amateur qui commence à fleurir à Harlem. Et puis là, sur scène, elle y va pour danser, puisque initialement, c'est la danse qui lui donne sa vocation vers les planches. Et puis finalement, elle est pétrifiée, parce qu'avant elle, il y a eu un couple de jeunes danseuses qui était absolument fantastique. Et elle s'est dit, c'est pas possible que je puisse. Enfin, je vais me ridiculiser absolument. Et la foule qui est là, qui est un public de goût, hein, la pousse un peu comme ça. Et puis du coup, elle ne sait rien faire d'autre que chanter. Elle chante une chanson que fredonnait sa mère. Et hop, c'est comme ça que lance sa carrière. Chick Webb, lui, à l'époque, donc gros big band, parmi les plus inventifs de Harlem, de la Harlem Renaissance, cherche une chanteuse. On lui dit, tiens, ce serait pas mal pour aller chercher les ondes. Parce que Webb, il a sa notoriété locale, mais il a envie d'aller plus loin. Hein. Lui, il veut la carrière discographique, la radio, qui sont les nouveaux supports qui explosent. Et on lui dit, une chanteuse serait pas mal. Oh non, non, non. Et puis alors, on lui amène Ella Fitzgerald, qui à l'époque vit dans la rue. Et alors, il se tourne vers celui, donc un membre de son big band qui a repéré la jeune fille, et dit « mais c'est pas possible, tu vas pas mettre ça dans mon groupe ?» C'est la citation. Et ce qu'en dit long. Et finalement, c'est en l'écoutant qu'il va dire « ah, l'évidence va s'imposer ». Il la recrute, et effectivement, Ella et Chick Webb vont être un duo fantastique, parce qu'ensemble, l'inventivité réciproque, Ella, sa voix, va permettre à Webb de conquérir les sommets, et à Webb, il va former Ella. Il va dire « va pas trop vite, écoute d'abord ». Tiens ta place, parce que là, elle déborde d'ambition, mais pas d'une ambition au détriment des autres. C'est quelqu'un qui est très lumineux, très positif, mais elle regarde toujours devant et elle veut plus, elle veut plus, elle veut courir vers l'avenir. Et Webb, du coup, effectivement, lui enseigne les choses jusqu'à sa mort. Et là, elle prend son envol, pas tout de suite, parce qu'en fait, elle est encore chaperonnée par le manager qui lui confie la direction de l'orchestre, alors que du jamais vu, une jeune chanteuse, les musiciens expérimentés du Big Band n'en reviennent pas. Mais bon, ça, c'est de la façade. En réalité, c'est pas elle qui dirige vraiment le groupe. Mais en tout cas, elle est la première femme à s'inscrire comme chef d'orchestre.
Et vous le disiez, pendant un temps, Ella Fitzgerald continuera à chanter devant l'orchestre de feu Chick Webb. Et je vous propose d'ailleurs, Steven Gézovanier, de l'écouter en juin 1939 interpréter Stairway to the Stars.
Let's build a stairway to the stars and climb that stairway to the stars with love beside us to fill the night with a song. We'll hear the sound of violins out yonder where the blue begins. The moon will guide us as we go drifting along.
we sail away on a lazy daisy pedal over the rim of the hill. Can't we sail away on a little dream and settle high on the crest of a thrill? Let's build a stairway to the stars, a lovely, lovely stairway to the stars. It would be heaven to climb to heaven with you.
Stairway to the Stars, Ella Fitzgerald à la tête du Chick Webb Orchestra le 29 juin 1939. Steven Gézovanier, il y a un aspect de la personnalité d'Ella Fitzgerald que vous avez légèrement évoqué il y a quelques instants et que l'on perçoit très bien dans votre livre, c'est son manque de confiance en elle. Est-ce que cela a conditionné ses choix artistiques ?
C'est une bonne question. Parce que Ella a beaucoup fait confiance à ceux qui lui faisaient confiance. Donc, c'est-à-dire Chick Webb d'abord, Mo Gayle, son premier manager, ensuite plus tard Norman Granz, son autre manager et véritable directeur artistique, qui vont beaucoup, beaucoup choisir pour elle. Mais il est vrai qu'à travers ses chansons, il apparaît en tout cas qu'elle choisit vraiment des chansons plutôt lumineuses, des grandes chansons. Alors il y a de tout, il y a surtout une grande diversité, un éclectisme. Ça, c'est sans doute la caractéristique majeure de l'œuvre d'Ella Fitzgerald. Elle reconnaît aucune barrière de style, de genre, de classe, de couleur de peau ou autre. Elle navigue dans tous les univers. Elle aime les chansons de Broadway, elle aime les petites mélodies simples, elle aime parfois jusqu'au jingle qu'elle entend à la radio ou à la télé. Elle dit « mais c'est quoi ça? C'est bien, j'ai envie de le chanter ». Elle aime tout. Elle aime des grands standards, le Great American Song. Elle aime, il y a ce concert en 74, là, qu'elle donne au Ronnie Scott à Londres, où elle enchaîne comme ça, nourrie de scat et d'improvisation, parce qu'elle est habitée par des milliers de mélodies en permanence. C'est une espèce d'explosion permanente en elle, où tous les styles jaillissent. Et elle va naviguer, hop, quelques notes de classique, et puis elle va sauter au country and western, puis à la spicy music, comme elle dit, qu'elle a que plutôt le funk. Elle va aussi chanter les Beatles, par exemple, entre deux, Cole Porter et Gershwin, sur la scène de Jean Lépin, par exemple, du Festival de Jazz.
Elle va chanter de la bossa nova, elle va chanter Marvin Gaye. Oui. Elle avait plusieurs palettes à sa disposition.
Elle aime la dimension fédératrice de la musique et elle en a une approche totalement œcuménique, on pourrait dire.
Parmi les hommes qui ont compté dans sa vie, il y a le producteur Norman Granz. Quel rôle a-t-il tenu dans le cheminement artistique d'Ella Fitzgerald ?
Alors, très important parce qu'il arrive dans sa vie. Donc lui, Norman Granz, il soutient les artistes de jazz en Californie. Et il a une double vocation, lui. Il a un vrai combat, un vrai engagement contre la ségrégation. Et son autre engagement, c'est la promotion du jazz des artistes noirs. Il est persuadé, et il a raison, et là, le prouvera à ses côtés, que le jazz peut être une arme contre la ségrégation et la ségrégation peut être combattue par le jazz, et ainsi de suite. Et Norman Granz, lui, est très attaché au début à un jazz un petit peu puriste. Et puis il repère, il aime les boppers, donc les artistes bebop. Et c'est par Ray Brown qui repère Ella Fitzgerald, qui est à l'époque un contrebassiste qui accompagne Dizzy Gillespie, le mari d'Ella Fitzgerald. Et il repère Ella Fitzgerald. Et là, et pareil, bah, comme tous ceux qui l'entendent, il est subjugué par sa voix, par son potentiel. Et lui, il est très tôt convaincu qu'elle n'est pas entourée comme il faut. Hein. On ne lui donne pas les moyens de s'exprimer pleinement. Et donc, il va peu à peu l'accompagner, d'abord comme directeur artistique officieux, en lui donnant quelques conseils, etc. Et surtout, la Grande Révolution, donc arrivée au milieu des années 50, alors que le paysage musical est totalement bousculé, percuté par l'arrivée du rock'n'roll et le renouveau, du coup, la fin de la pop traditionnelle et de la pop moderne qui arrive. Et lui, il a l'idée, en apparence, à contre-courant, de confier à Ella les grands standards de ce qu'on va appeler le Great American Songbook, donc le grand répertoire américain fait par Irving Berlin, Cole Porter, etc. Tout le grand répertoire des classiques de Broadway, Tin Pan Alley, qui ont été conçus dans les années 30, 40 et au début des années 50, avec l'idée qu'il y a du beau dedans et qu'il faut lui donner toutes ses lettres de noblesse. Et donc, il y a un intérêt patrimonial, culturel à défendre ce Great American Songbook. Et aux yeux de Granz, Ella est la voix parfaite. Et il se trouve que réciproquement, ce répertoire, il n'y a pas mieux pour sublimer la voix d'Ella. Et donc, il va l'encourager à faire donc toute la série de songbooks, hein, qui est une succession d'albums qui vont être dédiés à des compositeurs en particulier, George Ezra Gershwin, Roger Sennhart, Cole Porter, évidemment. Et donc, effectivement, avoir une influence colossale dans l'évolution artistique d'Ella.
Ella Fitzgerald devient en tout cas une artiste acclamée par le grand public, tant sa voix fait l'unanimité, comme sur ce titre de George Gershwin, « The Man I Love ».
Someday he'll come along, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love. And when he comes my way, I'll do my best to make him stay. At me and smile, I'll understand, and in a little while he'll take my hand, and though it seems absurd, I know we both won't say. I shall meet him Sunday, maybe Monday, maybe not. Still, I'm sure to meet him one day, maybe Tuesday will be my good news day. He'll build a little home just meant for two, from which I'll never roam. Who would you? And so all else above, I'm waiting for the man I love.
The Man I Love, Ella Fitzgerald avec le grand orchestre de Nelson Riddle en 1959. Steven Gézovanier, dans votre livre Ella Fitzgerald, Il était une voix en Amérique, paru aux éditions Le Mot et le Reste, vous insistez sur la formidable voix d'Ella Fitzgerald et notamment sa justesse. Mais qu'en est-il du frisson que l'on espère ressentir à l'écoute d'une grande interprétation? Ella Fitzgerald vous émeut-elle autant qu'une Billie Holiday ou une Mahalia Jackson?
Ah, c'est le grand débat perpétuel, ça. Les musiciens qui ont entouré Ella ont tous dit qu'elle avait une musicalité extraordinaire. C'est-à-dire que jouer avec Ella était comme jouer avec un autre instrumentiste, d'égal à égal. Et Ella a toujours aussi considéré, c'est ce qui fait aussi d'ailleurs son aisance dans le domaine du scat, c'est-à-dire qu'elle a fait de sa voix un instrument à part entière. Donc, il y a une liberté absolue, c'est peut-être là. Alors effectivement, elle est dans un registre plutôt lumineux, plutôt joyeux. Si on devait comparer Ella et Billie Holiday, je dirais que Ella invoque la lumière dans son œuvre, tandis que Billie Holiday essaie d'exorciser ses douleurs, de s'épanouir et de toucher l'auditeur par les sentiments douloureux. Atteindre et toucher le cœur d'un auditeur par la lumière, c'est presque encore plus prodigieux.
Pour moi, Ella Fitzgerald nous épate plus qu'elle nous emporte. Qu'en pensez-vous ?
Ah, c'est vrai, ah, c'est drôle, parce qu'on aurait peut-être pu dire même l'inverse. Et là, elle a une proximité quand même. Il y a une espèce d'intimité qu'elle arrive, je trouve, à installer avec ses auditeurs. Elle est avec eux, elle blague. Elle est presque à portée. Billie Holiday, elle semble comme ça presque inaccessible, parfois.
Quand on écoute, par exemple, l'improvisation d'Ella Fitzgerald sur le titre « Mack the Knife » en 1960 à Berlin, on est davantage époustouflé que charmé, si vous voyez ce que je veux dire.
C'est vrai, mais elle-même, à la fin, se dit « Mais quel naufrage !» C'est ce qu'elle dit d'ailleurs en chantant, parce qu'elle perd en fait le fil des paroles et elle comble le vide en improvisant des petits hommages à Louis Armstrong, Bobby Darin et autres qui ont repris déjà avant elle cette chanson. Et elle dit, tout en chantant, Ella Fitzgerald est en train de faire un naufrage de cette chanson. Et à la fin, elle est désolée et on lui dit « Mais non, c'est génial ce que tu viens de faire et effectivement, ça va devenir un tube !»
Pour le plaisir, écoutons ce passage durant lequel Ella Fitzgerald s'amuse de son trou de mémoire en chantant.
Ah, Louis Miller,
Mike the Knife, Ella Fitzgerald en 1960. C'est amusant car elle reconnaît ne pas se souvenir des paroles. Elle dit quel est le prochain couplet, je ne sais pas. Mais elle retombe admirablement sur ses pieds. C'est la preuve d'un grand talent. Steven Gézovanier, j'aimerais vous faire entendre un autre écho de sa maîtrise parfaite de l'art vocal. C'est un enregistrement de 1957 au Shrine Auditorium de Los Angeles. Elle chante Stomping at the Savoy et se lance dans une démonstration de scat incroyable. Écoutons ce court extrait et on en parle juste après. Stomping at the Savoy, totalement dynamité par la fougue d'Ella Fitzgerald en 1957. D'où vient cette capacité rythmique et harmonique à transformer une composition, Steven Gézovanier?
Ah, je crois qu'elle est vraiment totalement habitée par la musique. Tous les témoins disent constamment, elle avait constamment des mélodies en tête. Si on reprend le naufrage entre guillemets de Mike the Knife à Berlin, elle enchaîne tout de suite avec une autre chanson où elle va introduire, par l'art du quoting, elle va faire une trentaine, quarantaine de mélodies qu'elle va intégrer à la mélodie principale, ce qui est absolument prodigieux. Et le fait d'être habitée par toutes ces mélodies, je pense, nourrit son art de l'improvisation. Déjà jeune, elle pratiquait beaucoup l'imitation, etc. Donc elle a acquis, en autodidacte, presque une voix malléable, plastique, qu'elle peut user avec cette incroyable justesse qu'il y a derrière. Et lorsqu'elle va avec les Boppers, donc les Gillespie et autres, quand elle reprend Oh Lady Be Good, Gillespie lui dit « Mais vas-y, mais souffle, viens et souffle !» Alors évidemment, dans aucun instrument, c'est souffle dans ta voix. Et là, sa voix, c'est tantôt un violon, tantôt une trompette, tantôt un cornet. Elle a cet art et surtout, elle a un sens du rythme absolument prodigieux.
Donc ça veut dire que le scat est inné chez elle?
Je pense, oui. Et puis c'est... Enfin, il y a en tout cas une dimension innée. Il y a un vrai sens du rythme. Elle a l'oreille absolue. Et surtout, elle a un entraînement. Elle fredonne tout le temps, constamment, constamment, constamment. C'est un langage pour elle, parce que c'est une personnalité très discrète, très secrète. Elle utilise ses chansons et la musique comme un langage.
Peut-être pourrions-nous rappeler pour nos auditeurs ce qu'est le scat?
Alors, art vocal, où la sonorité d'une syllabe prend le pas sur le sens, sur la signification. Les mots, finalement, explosent et se détachent. Et par un jeu d'assonance, d'allitération, on fait rebondir la mélodie et on suit cette ligne comme ça, comme un solo de cornet, par exemple.
Donc il n'y a pas de partition quand on scatte.
Eh non, c'est le règne absolu de l'improvisation.
Je crois que c'est Louis Armstrong qui avait inventé par hasard le scat en 1926. Je crois avoir lu ça. Alors, dans votre livre.
Ça c'est ce que dit la légende, qu'il aurait laissé tomber une partition au moment d'enregistrer, qu'il aurait comblé le blanc justement avec un scat. Mais en réalité, on peut retrouver la trace un peu plus tôt. Et il semble que ce soit un art qui se soit développé déjà avant lui, mais sans doute qu'il l'a mis davantage en lumière et popularisé.
Est-ce que le scat était une forme d'exutoire pour les artistes afro-américains qui subissaient l'oppression sociale et raciale aux États-Unis?
Elle a été beaucoup dynamisée suite donc à l'apparition du bebop. Gillespie disait que toute musique était le reflet de son époque et que, en l'occurrence, son époque était furieuse. Et effectivement, sa musique à 200 à l'heure, totalement libérée des carcans, est une musique qui reflète une furieuse envie de vivre. Et je pense que le scat aussi.
Ella Fitzgerald et Louis Armstrong ont souvent été perçus comme des artistes dociles et assez peu revendicateurs. Est-ce que c'est une caricature?
Oui, c'est une caricature dans le sens... En fait, c'est mettre à l'écart, il me semble, le contexte. Qui mieux que Louis Armstrong, petit-fils d'esclave, ou qu'Ella Fitzgerald, orpheline noire, qui vivait dans les rues de Harlem aux pieds nus en rêvant des néons? Comment on peut lancer une telle accusation à deux artistes pareils qui ont contribué autant à la reconnaissance du jazz, à son éclosion de manière aussi fantastique? Moi, je trouve que là, il y a une erreur grossière.
Steven Gézovanier, je ne résiste pas à l'envie de les retrouver tous les deux, Louis Armstrong et Ella Fitzgerald, sur l'album Ella et Louis, en 1956. Voici Why Can't We Be Friends, Ella Fitzgerald et Louis Armstrong.
I'd found the man of my dreams. Now it seems this is how the story ends. He's going to turn me down and say, can't we be friends?
had thought for once it couldn't go wrong. Not for long, I can see the way this ends. He's going to turn me down and say, can't we be friends? Never again, through with love, through with men. They play their game without shame, and who's to blame? I thought I'd found a man I could trust. What a bust. This is how the story ends. He's gonna turn me down and say, can't we be friends?
Yes, I thought I knew the wheat from the chaff. What a laugh. This is how the story ends. I let her turn me down, say, can't we be friends? But that day I acted like a kid out of school. What a fool. Now I see this is the end. I let her turn me down, say, can't we be friends? Oh, why should I care? Though she gave for me the air, why should I cry, have a sigh, and wonder why? Yes, I should have seen the single stop. What a flop. This is how the story ends. She's gonna turn me down, save can we be friends.
Le duo ultime, Ella Fitzgerald et Louis Armstrong, enregistré en août 1956 à Los Angeles, c'était Why Can't We Be Friends. Steven Gézovanier, il y aurait tant à dire sur Ella Fitzgerald que je renvoie nos auditeurs à votre livre. Ella Fitzgerald, il était une voix en Amérique, 360 pages passionnantes, paru aux éditions Le Mot et le Reste. Merci d'avoir ressuscité 25 ans après sa disparition, la First Lady of Song, et félicitations.
Merci beaucoup.
L'émission du jour a été réalisée à Paris par la First Lady of Swing, Nathalie Laporte, avec le concours essentiel de Gwendoline Lefin de France Bleu Normandie, que je remercie au passage. La semaine prochaine, nous accueillerons l'une de vos consoeurs, Steven Gézovanier. Il s'agit de Claire Julliard, qui évoquera Louis Armstrong à l'occasion de la reparution de son Little Louis, une plongée romancée dans la jeunesse du petit Louis Armstrong, il y a un siècle. Vous l'avez lu ?
Lu et apprécié.
Merci à vous et merci à tous les fidèles de l'épopée. On se retrouve dans 8 jours, dans quelques instants, le journal.
I let him turn me down and say...